Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute du programme du Studio Tamani sur 85 radios sur l'ensemble du pays. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue à tous et à toutes au sommaire de cette édition. Les enseignants des collectivités du district de Bamako sont en arrêt de travail à cause du retard du paiement de leur salaire du mois de novembre. Au même moment, le comité syndical du CHU Gabriel Touré menace d'aller en grève à partir du 13 décembre prochain. Ce parti pour le grand trail, la course à pied de la jeunesse pour la paix, est lancé ce mercredi 1er décembre 2021 à Bamako pour une distance de 1500 km. Selon les organisateurs, les coureurs partiront de Bamako à Gao. Les réfugiés maliens vivent dans des conditions difficiles dans le pays voisin. Il en est de même pour les déplacés internes des régions de Segou et Mopti. Ils aspirent tous au retour de la paix dans leur localité d'origine. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Imrana Kilomega, la mise en onde de Philly Damelé. Les enseignants des collectivités du district de Bamako sont en arrêt de travail depuis vendredi dernier. Leur syndicat évoque un retard dans le traitement de leur salaire du mois de novembre. Idrissa Sako a fait un tour ce mercredi à l'ISIKA. Voici son reportage.
Ce mercredi, les enseignants des collectivités étaient absents, notamment à l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ISIKA à Bamako. Les élèves des enseignants qui ne sont pas concernés par l'arrêt de travail ont suivi les cours. Mais les autres élèves n'ont pas eu cette chance. Un d'entre eux dénonce cette suspension des cours.
Même hier, notre professeur de physique n'était pas là à cause des grèves. On a marre de cette grève.
La coordination du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités exige l'obtention du salaire de novembre pour reprendre la craie. Mamadou Soumaré, coordinateur du syndicat au niveau du district de Bamako.
Le délai de traitement doit prendre fin le 25 du mois en cours. On a constaté que les chèques n'ont pas été déposés dans les différentes banques. C'est pour cela que nous sommes allés en arrêt de travail jusqu'au paiement effectif des salaires. Tant que le salaire n'est pas payé, nous n'allons pas commencer à travailler. Ce n'est pas une grève, c'est un arrêt de travail. Pour un arrêt de travail, il n'y a pas lieu de préavis.
Mamadou Soumaré rappelle que le traitement de leur salaire doit être effectif au plus tard le 25e jour de chaque mois.
Le comité syndical du CHU Gabriel Touré a déposé ce mardi un préavis de grève de 3 jours sur la table du gouvernement. La première phase de cet arrêt débutera du lundi 13 au mercredi 15 décembre 2021. Le comité explique qu'elle sera reconductible si les doléances ne sont pas satisfaites. Le syndicat exige l'amélioration de leurs conditions de travail, le renforcement des mesures de sécurité pour le personnel face à la COVID-19, entre autres. Au même moment, certains travailleurs du hôpital jugent ce mouvement à de grèves inopportunes. Khalifa Goïta.
Pour Jimé Kanté, porte-parole du comité syndical du CHU Gabriel Touré, ce préavis de grève est motivé par la non-satisfaction de leurs revendications.
Le matériel indispensable nécessaire pour faire face au Covid-19 sont en manque. Cela est inadmissible. Une dégradation exponentielle de l'outil de travail et de production. Des coupes drastiques sur le salaire. Le reversement des contractuels dans la fonction publique s'attarde. Et les quelques éléments qui ont été reversés aussi dans des conditions très déplorables.
Cependant, certains travailleurs de l'établissement hospitalier pensent que la tenue de cette grève n'est pas opportune. Ceux-ci prônent le dialogue pour résoudre les difficultés que connaît l'hôpital. Mokhtar Wagé, surveillant de service aux urgences pédiatriques de l'hôpital Gabriel Touré.
On pense qu'avec le dialogue, on peut résoudre un certain nombre de points. Il y a certains points même, le comité nommé en question ne doit pas le prendre comme un cheval de bataille. Le Sénégal est là pour les travailleurs, mais quand ces grèves-là va pour leurs propres intérêts, on dit non. Mais nous ne sommes pas des nulards, nous ne sommes pas des marionnettes. Où vous amenez vos idées, on vous suit, on dit non, on ne va pas les suivre.
La grève qui pointe à l'horizon aura-t-elle lieu? En attendant la réponse à cette question ce lundi 13 décembre 2020, les patients de la structure commencent déjà à s'inquiéter.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. C'est parti pour le grand trail, la course à pied de la jeunesse pour la paix est lancée ce mercredi 1er décembre 2021 à Bamako. Selon les organisateurs, les coureurs partiront de Bamako à Gao, soit une distance de 1500 km. L'événement est organisé par le ministère de la Jeunesse et du Sport avec l'accompagnement du PNUD. Notre reporter Draman Maïga était présent au lancement.
Le sport, trait d'union entre les jeunes du Mali pour la paix. Tel est le thème de cette course. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est une occasion pour les filles et fils du Mali de se retrouver et de partager ce moment de joie.
Les jeunes vont marcher, ils vont parler, se parler, discuter et tout cela autour et pour la paix. C'est l'ensemble de ces pas qui vont faire que le Mali de demain sera un Mali uni, un Mali stable, un Mali en paix.
Enthousiaste, la jeunesse présente à l'événement s'est dit déterminée pour avancer ensemble à la quête de la paix. Madame Meiga Amsatou, ambassadrice de l'événement.
Dans nos cœurs, nous portons l'espoir. Dans nos sacs, nous portons l'héritage ancestral. Sous nos pas, nous sémons la paix. On admire le paysage en passant pour glorifier nos cultures et dire oui à l'unité en tant que jeunes femmes et jeunes hommes. Socle de la société, garant de la paix.
Cette course sera une forme de relais. Longeant les rives du fleuve Niger, l'arrivée des coureurs à Gao est prévue pour le 17 décembre.
Le poids social, la culture ou encore la religion, tant de facteurs qui jouent sur la femme en milieu scolaire et professionnel. Pour aider les jeunes filles à faire face à ces défis, les étudiantes de médecine ont organisé un forum de 3 jours. La rencontre servira de cadre pour sensibiliser et proposer des solutions pour une facile insertion professionnelle des filles. Les activités ont débuté ce mardi 30 novembre à la faculté de médecine au point G. Issa Oumar Togola était sur place.
Dans la société, tout comme à l'école ou dans les services, les femmes font face à de nombreuses barrières qui les empêchent d'explorer leur potentiel. Pour Adama Michel Mélissa, l'une des organisatrices du forum, cette rencontre permettra aux jeunes filles de mieux se préparer pour leur avenir.
On a tenu à faire cette conférence sous forme de panel parce que nous pensons que la jeune fille à l'heure actuelle a de sérieux problèmes d'intégration parce qu'elle-même elle se met des barrières. Elle a besoin d'enlever ce blocage-là de sa tête. Du coup, on a voulu faire cette conférence pour préparer la jeune fille à ce qu'il attend dans le monde professionnel.
Malgré sa difficulté, les opportunités existent. C'est pourquoi Dr Mariga Fatmata Koulibaly, marraine de la cérémonie, appelle les femmes à se faire confiance et à se battre pour ce qu'elles veulent.
Toutes les portes sont ouvertes aux filles, que ce soit au niveau médecine, que ce soit à tous les niveaux. Il faut juste vouloir pour pouvoir le faire. Et puis, il faut avoir confiance en soi-même. En tant que femme, il ne faut pas se dire que voilà, je ne peux pas.
L'une des questions débattues était aussi la conciliation du mariage à la vie professionnelle. Certains participants pensent que les femmes doivent privilégier la communication et doivent être plus déterminées à ces niveaux.
Les réfugiés maliens qui se trouvent au Burkina Faso et dans certains camps de la Mauritanie vivent dans des conditions difficiles. Cette précarité serait due par la recrudescence de l'insécurité dans les pays d'accueil, explique-t-il. Ils exhortent les autorités de la transition à les aider à revenir au pays. Le point avec Fatia Tara.
Au Burkina Faso voisin, les conditions de vie de ces réfugiés sont devenues intenables depuis la dégradation de la situation sécuritaire. Ces personnes affirment qu'elles manquent de tout, comme le témoigne ici l'un des réfugiés ayant requis l'anonymat.
Nous sommes vraiment dans l'impasse. On vit dans la précarité et la crise au Burkina a beaucoup multiplié nos souffrances. On a demandé aux autorités d'ici de nous favoriser le retour au bercail. Ils ont répondu que cela incombe aux autorités de notre pays.
Du côté de la Mauritanie, la situation est un peu plus améliorée. Cependant, beaucoup parmi eux aspirent au retour dans leur localité d'origine. Toutefois, ils déplorent aussi que toutes les conditions ne sont pas réunies pour retourner au bercail. Abdelaziz Ag Mohamed est un des responsables des réfugiés maliens vivant en Mauritanie.
Pour ce qui concerne la question du retour, c'est une question qui restera toujours en suspens. Parce que l'insécurité qui se métastase dans le nord du Mali et dans le centre du Mali et aux alentours de Bamako, ça n'encourage pas un retour.
Notons que l'insécurité a considérablement contribué à la baisse de l'élan des aides humanitaires dans les camps de réfugiés, selon de nombreux témoignages des réfugiés.
Les déplacés des régions de Mopti et Ségou vivent dans la précarité. Plus de 54 000 déplacés venus de cercles de Niono, Massina et dans d'autres localités du Mali vivent à Ségou en manque de vivres, d'habitat et de soins de santé. Il en est de même pour les déplacés de Koro. Ces derniers souffrent de non-assistance sur le plan alimentaire et sanitaire. Ils sont au micro de nos correspondants de ces localités.
Actuellement à Koro, nous vivons dans des conditions un peu difficiles parce que nous n'avons pas de sang pour pouvoir cultiver. Or, les aides humanitaires là sont vraiment arrêtées. Aujourd'hui, on peut dire que à Koro, les dons et consorts là sont donnés un peu aux réfugiés, sinon les déplacés sont pratiquement mise à côté. Donc nous souffrons beaucoup, nous sommes en manque des aliments et on n'arrive pas à subvenir à nos besoins aussi.
Moi, je suis venu de Nyonon. On nous a chassés. Des inconnus sont venus nous terroriser. On n'avait pas d'autre choix que de fuir. Ici, nous sommes laissés pour compte. On a faim et on a soif. C'est grâce à des bonnes volontés que nous parvenons à tenir. Nous n'avons rien. On tente de vendre des petites choses, mais ça ne suffit pas.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité en région, on nous conduit à Koulikoro où un accident de circulation survenu le 30 novembre 2021 sur l'axe Bamako-Koulikoro a fait un mort et 6 blessés entre les localités Fougadougou et Manabougou. Des sources sécuritaires indiquent que c'est un minibus en provenance de Bamako qui s'est renversé tout seul. Les victimes ont été transportées au centre de santé de référence de Koulikoro par les éléments de la protection civile. Une centaine de personnes démunies ou en situation de handicap dans le cercle de Kati ont reçu des vivres alimentaires. Chacun des bénéficiaires a reçu 50 kg de kilogrammes de mil, 25 kg de sucre et 20 litres d'huile. Le geste est du président de la transition. Il entre dans le cadre de son programme d'aide aux personnes en situation difficile. La remise s'est déroulée le 29 novembre 2021 à Kati en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. La situation sécuritaire du pays, les perspectives et les actions du Conseil national de transition étaient au cœur d'une rencontre le 27 novembre à Ségou. Elle a été organisée par l'association alternative citoyenne Malikoura et le collectif pour la refondation du Mali. Plus d'une centaine de participants ont pris part à l'activité. Dans quelques instants, nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam Maïga, quel est le thème choisi pour le Grand Dialogue?
Bonsoir Emirana Kilou Maïga, le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir est esclavage, quelles sont les limites des mesures prises pour faire face au phénomène? Pour en parler, nous avons fait appel à trois personnes, Dr Yagouba Dogoni, sociologue et chercheur, Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, Lassina Konaté de l'association Gabana, une organisation qui lutte contre la pratique de l'esclavage.
Merci Mariam Maïga et bon débat. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Emirana Kilou Maïga. Le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 1,7% à 1,1% ces dernières années, selon Arcade Mali. Ses responsables estiment que cela découle des efforts consentis par les différents acteurs pour lutter contre la maladie. Ils déplorent cependant une baisse de la mobilisation au niveau des autorités du pays. Madame Dembélé Bintou Keïta, directrice de Arcade Sida, répond aux questions de Fatih Yattara.
Donc ce n'est certainement pas le moment d'arrêter la lutte contre le sida au profit de notre maladie. Il faut continuer à parachever cette lutte-là. Et comment faire? Donc ce n'est certainement pas le moment d'arrêter la lutte contre le sida au profit de notre maladie. Il faut continuer à parachever cette lutte-là. Et comment faire? Il faut que les autorités s'investissent davantage, que le sida revienne dans l'agenda politique des autorités de ce pays, que les financements, qui sont les financements nationaux, doivent suivre cette lutte-là. Que les autorités s'engagent à donner plus de financement aux affaires de la lutte contre le sida. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les acteurs, les partenaires techniques et financiers donnent beaucoup d'argent au Mali, notamment le Fonds mondial.
Est-ce que vous êtes confronté à des difficultés dans cette lutte?
Aujourd'hui, la politique de l'ONU-SIDA était de 95% des personnes concernées par le VIH-SIDA soient dépistées. 95% des personnes dépistées ont un traitement antirétroviral, 95% qui ont un traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable.
Vous vous êtes fixé l'objectif d'en finir de façon définitive avec cette pandémie d'ici 2030. Quelle est votre politique?
C'est que toutes les personnes concernées par le VIH soient dépistées. Donc que chacun connaisse son statut sérologique pour que le traitement là soit efficace. Et quand le traitement est efficace, la transmission du VIH d'une personne qui a un traitement efficace à une personne qui n'est pas infectée, s'est réduit considérablement. C'est pourquoi la seule façon d'arrêter l'épidémie, c'est d'agir sur les nouvelles infections. Donc faire en sorte qu'une personne qui est déjà contaminée ne puisse plus transmettre la maladie. Donc j'invite ici tous les Maliens à accepter de se dépister, à savoir les statuts sérologiques, assurer les moyens de prévention pour le VIH et que le sida puisse effectivement n'être plus un problème de santé publique dans notre pays.
Alors docteur, une baisse de vigilance se constate selon des études au niveau des populations. Qu'est-ce qu'explique ces phénomènes?
On a arrêté de se préoccuper du sida. Donc il faudrait que le sida soit un sujet de plaidoyer. Il faudrait que les autorités de ce pays-là sachent que après tant d'efforts, on est proche de la victoire, mais il ne faut pas arrêter. Il faudrait que la population comprenne que le dépistage est quand même une priorité pour avoir une meilleure santé. Pour que le sida finisse en 2030, il faut que tous les Maliens acceptent de se dépister et tous les Maliens acceptent de se soigner.